Bonjour Raymond Richard au micro, eh bien je me retrouve avec Marie-Lise pour parler de livres, et là l'auteur c'est Irving Yalom.
Irving Yalom, oui, bonjour d'abord.
Comment tu l'as découvert?
Comment j'ai découvert? Eh bien comme souvent, je vais à la librairie et puis regarde. À la librairie par hasard.
Souvent je
regarde si ça m'inspire. Il y a des auteurs que je connais et que j'attends avec impatience. Et puis là, je tombe sur un titre et Nietzsche a pleuré. Et je me suis dit, alors ça c'est pour moi, j'achète. Je ne connaissais absolument pas Irving Yalom. Et puis depuis, je suis une inconditionnelle. Dès qu'il a écrit son nom, j'achète. Et d'ailleurs, je me suis aperçue, ils ont passé cet été une émission sur lui, sur Arte, je crois, ou sur La 5. Et sa femme, tellement... Alors, faudrait que j'essaie de la retrouver, parce que j'ai pas pu l'écouter. C'est un personnage absolument extraordinaire, d'une richesse... Je dis ça à force de le lire. Hein. Et il a beaucoup d'humour, malgré les sujets que nous allons aborder. On va pas parler de tout, là, mais... c'est un auteur... Vous apprenez énormément de choses. Il vous fait réfléchir, il vous fait sourire, il vous fait rire. Tout. Le rêve, quoi. C'est peut-être le mari idéal, je ne sais pas.
Bon, en tout cas, moi, j'ai lu « La malédiction du chat hongrois ». Alors là aussi, le titre est quand même assez étonnant. Et quand on ouvre le livre, eh bien, il n'est pas question de chat ni de Hongrie, mais il est question de relations entre un thérapeute et ses clients, mais aussi dans le cadre de l'hôpital, l'administration. Alors, il y a des séquences...
Ça se passe aux États-Unis, hein.
Oui, ça se passe aux États-Unis, mais quand même, oui. Il y a des séquences qui sont véritables. On pourrait faire du copier-coller avec ce qui se passe ici, le déni par certains malades de leur propre maladie, alors qu'ils sont soignés pour un cancer, par exemple, n'est-ce pas? J'ai un cancer en phase terminale, mais je ne suis pas une patiente cancéreuse. Je trouve que c'est quand même assez intéressant de lire ces choses.
Moi, j'ai déjà entendu... comme j'ai pas de métastase, j'ai pas de cancer.
Voilà. Et puis alors, et pourtant, la personne raconte son histoire de manière concise et précise. Cancer du sein diagnostiqué, retrait chirurgical de ce sein, cancer de l'autre sein, chimiothérapie, nausées, vomissements, perte totale des cheveux, etc. Bon, mais en même temps, il y a aussitôt après, j'ai toujours aimé les femmes au corps plein et gracieux, au beau sein, à la sensualité évidente. Donc les passages avec ce on passe de l'un à l'autre, on passe du rêve à la réalité, on entend les réflexions de ces thérapeutes, les réflexions de « Ensemble, nous avons revécu la rencontre avec le cancer, le choc initial, l'incrédulité, la mutilation du corps, l'acceptation progressive. » Et puis, il y a aussi des démêlés avec l'administration, et puis il y a comment on constitue un groupe de thérapeutes, et puis il y a... enfin. Véritablement, c'est...
Et comment apprendre à peut-être enfin vivre en se disant « mais c'est pas parce que j'ai un cancer que c'est la fin du monde » ou même si je sais que je vais mourir, il me reste du temps et je ne vais pas me laisser abattre. Il y a un beau chemin de fait, je trouve, sur ce plan-là. Parce que ça a l'air un peu noir ce que tu nous racontes là, alors qu'en fait, c'est toujours des notes d'espoir et de partage.
Et c'est toujours l'idée qu'entre, alors, croyant ou pas... puisque Irving Yalom revendique justement d'être athée, c'est tout à fait intéressant parce que la vie, ce miracle de la vie, il dit, eh bien, ça tient entre la naissance et la mort. Mais justement, dans cette période, entre la naissance et la mort, ce que j'ai retenu, c'est, eh bien, vivez et vivez à fond, et vivez chaque instant, et ne vous posez pas la question du hier, c'est passé, du demain, ça n'existe pas encore, mais vivez l'instant présent. Et je trouve que c'est au-delà de ces expériences, puisque dans les deux livres que je vous propose, La malédiction du chat hongrois et puis Le jardin d'Épicure, il est question toujours de ses relations avec des malades. Il est psychiatre et il suit en thérapie un certain nombre de choses, de personnes. Et ce qui pose question... finalement, au-delà de toutes les tergiversations, c'est la question de la mort à laquelle on a été confronté, la mort à laquelle on a un enfant, un enfant est mort, un frère est mort, et tous ces patients ont des démêlés avec la mort. Et la leçon, c'est, mais vivez. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti.
Et puis aussi, la mort, c'est rien. De toute façon, c'est écrit. Il ne faut pas se torturer parce qu'on va mourir. Parce que de toute façon, on va mourir. Et il ne faut pas que je dise Dieu merci parce qu'il est athée. mais en même temps, oui, c'est vrai. Il faut, la mort, c'est... Enfin, moi, j'avais un ami poète. Il est mort maintenant. Il disait... La mort n'est qu'un peu de lumière trop forte. Je trouve ça magnifique et voilà, ben c'est ça. Et puis après, il y a quelque chose si on y croit ou pas. Après, on a rendez-vous avec ceux qu'on aime ou pas. Mais peu importe. Et c'est vrai, c'est un bel hymne à la vie et en même temps qui est pas juste un délire poétique. C'est fondé. Je trouve qu'il a une belle façon d'inciter et même les plus désespérés. Tout le monde y arrive avec lui, je pense. Hein, il a pas beaucoup d'échecs, mais je pense qu'il a une grande générosité, une grande écoute. Il a pas peur de franchir certaines barrières. Ça aussi, c'est un des côtés très intéressants.
C'est intéressant, oui. Parce qu'effectivement, là, on perçoit aussi les relations entre le thérapeute et le malade. Il y a aussi une histoire assez amusante puisqu'il il prend des notes et il enregistre. Et dans certains cas, avec certains malades, il avait pris la décision de confier l'enregistrement. Et là, il a confié un enregistrement dans lequel il avait aussi ce qu'il a mis à son dictaphone. Et la personne a aussi entendu toutes les remarques qu'il faisait sur son cas. Et puis elle revient en ne disant pas, bien sûr, qu'elle a entendu aussi toutes les remarques du cas. Donc là, on assiste à un dialogue plein d'humour, avec aussi plein de sous-entendus, puisque de part et d'autre, l'autre ne sait pas que le premier sait.
Enfin, non, mais c'est vraiment un régal. Hein. Moi, pourquoi j'aime tellement cet auteur, c'est parce que justement, il y a toujours à la fois, on le sent très très proche. Moi, j'ai l'impression que si je le rencontrais, ça n'arrivera jamais, mais ce serait plutôt des retrouvailles. Et en même temps, il arrive à garder cette petite distance, mais pas trop, parce qu'avec ses patients,
il y a des relations très fortes.
Et si on réfléchit bien à ce qu'est un thérapeute, parce qu'il est à la fois psychiatre et thérapeute, il y a quand même des règles très strictes qu'on est censé respecter, et que lui a décidé de pas te traiter par le mépris, mais il pense que certaines barrières sont faites pour être franchies dans certains cas précis, et qu'il faut pas avoir peur. Mais d'ailleurs, si on lit ses romans, les deux autres là, dont on ne va pas forcément parler, parce qu'on peut pas tout... Il y a aussi comment on doit savoir transgresser dans le respect pour arriver là où il faut qu'on arrive pour le patient.
Alors, il évoque justement cette double exposition à la fois du thérapeute et du patient. Et c'est assez intéressant de voir aussi comment il met ses patients qui veulent laisser tomber au défi. Comment à celle-ci, il offre un t-shirt. Comment à celle-ci, il dit « Mais enfin, je ne suis pas un tiroir-caisse. » Enfin, il y a des passages qui sont véritablement vite, plus que quelques minutes avant que cette foutue horloge se mette à décompter son heure à $150. Une certitude, se dit-elle, pas question de lui rendre la cassette comme d'habitude, il faut que je la réécoute. Je vais mentir et dire que je l'ai oubliée chez moi, comme ça je pourrai la recopier sur une autre bande et lui rapporter l'original la semaine prochaine. Bon, et...
Oui, je...
La relation financière aussi, donc, est évoquée.
Oui, c'est... J'allais y venir. Bon, on dit toujours, mais si c'est gratuit, si c'est gratuit, ça ne marche pas. Et puis, il y a la relation financière, parce que c'est vrai que c'est quand même un sacré budget. Et il n'a pas peur, il n'a jamais peur d'aborder les sujets les plus compliqués, même de temps en temps. On sait bien qu'il y a des contre-transferts. Faut peut-être pas que je dise ce mot-là. Enfin, il peut y avoir des attirances. Voilà. Et il n'a pas peur d'affronter. Et il est de ces thérapeutes qui n'hésitent pas à parler d'eux pour dire, mais vous voyez, moi, votre chemin, je connais, parce que moi aussi, j'ai souffert, moi aussi, sans tout le temps parler de lui, alors qu'on dit souvent qu'il doit y avoir une très grande distance. Et lui, il n'est pas du tout comme ça. Il a réussi à instaurer une dimension humaine avec ses faiblesses, mais c'est en même temps, je pense, sa grande force. Il ne lâche jamais un patient où il fait tout ce qu'il faut. Il s'occupe de savoir s'il a outrepassé les droits ou les devoirs.
Et puis, c'est abordé d'une façon un peu humoristique. Voilà. C'est vrai, je ne le sais pas bien pourquoi, répondit Ernest. Il y a plusieurs choses en elle qui me déplaisent. Qu'elle me rappelle sans cesse les sommes qu'elle me paye me rend furieux. Elle transforme constamment ce processus en une transaction commerciale. Ce n'est pas une transaction commerciale ? Depuis quand ? Vous lui fournissez un service et en échange elle vous donne un chèque ? De mon point de vue, c'est du commerce. Les paroissiens donnent à la quête, et cela ne transforme pas la messe en un acte commercial. Mais si, les circonstances sont justes, plus raffinées et dissimulées. Lisez le mot doux en petit caractère à la fin du livre de prière. Pas de dîme, pas de messe.
Oui, mais voilà. Et non, mais justement, ça me fait penser à une autre dimension, c'est que on n'oublie pas aussi que un thérapeute est suivi, confronte ses expériences, peut se faire recadrer par ses pairs. Il y a aussi toute cette
on
dimension.
On évoque aussi cette dimension.
Oui, et c'est très important.
Retrouve, oui. Il présente un cas au groupe de pairs pour justement expliquer combien ce patient lui coûte aussi.
Oui.
Et puis lui coûte non pas en termes financiers, mais en termes de, enfin disons, d'investissement psychologique, on pourrait dire.
Et puis parfois, on a des patients qui instaurent des murs infranchissables. C'est quand même vrai. Ils viennent parce qu'ils souffrent et en même temps, c'est « Ah, j'ai mal, mais attendez, je vais mettre un grand mur et comme ça, vous ne pourrez pas m'aider. » Et parfois, même le meilleur des thérapeutes comme Irving Yalom peut se trouver devant ce mur infranchissable et a besoin de partager parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. Hein, quand on parle, on analyse avec plus, le silence est plus difficile dans ces cas-là. Et c'est comme quand on bloque quel que soit le sujet. Si on explique pourquoi ça bloque, du coup, la formulation fait qu'on trouve parfois l'explication soi-même. Simplement le fait d'avoir partagé ouvre les portes.
Et on c'est ça l'objectif, aussi. Finalement, oui, c'est d'amener le patient à trouver lui-même son chemin de guérison.
De toute façon, c'est toujours comme ça. Si on est, c'est pour ça qu'on dit toujours que ça ne sert à rien, les thérapies, si on n'est pas volontaire. Quand on vous dit vous souffrez, on dit maintenant, allez, il faut que vous voyez quelqu'un. Bon, c'est la formule consacrée maintenant. Vous faites-vous aider. Ça ne marche pas si tant que ce n'est pas la personne elle-même. Parce que justement... Elle va pas parler ou elle va dire que des choses qui n'ont rien à voir. C'est la démarche essentielle.
Et puis alors, dans ces deux livres, Le jardin d'Épicure et La malédiction du chat hongrois de Irving Yalom, je rappelle, il y a aussi l'historique de la thérapie. On évoque Freud, on évoque le rôle des rêves, on évoque véritablement, il y a aussi toute une entrée dans un monde que peut-être certains connaissent, que d'autres ne connaissent pas, mais en tout cas, en abordant le roman, on n'est pas obligé d'aller voir ailleurs qui est Freud. Finalement, le contexte, le roman lui-même ou le texte lui-même nous amène à comprendre ce qui se passe, à comprendre cette culture.
Il y a aussi, d'ailleurs, dans Mensonge sur le divan, alors là, le titre est parlant, ça c'est très intéressant, ça c'est un roman, et Irving Yalom explore la part d'ombre de la relation psychanalytique, quel est pour nom, ambition, désir ou argent. Et là encore, bon, faut pas que je vous raconte, ce serait dommage, mais là aussi, c'est sur un autre mode de récit, l'illustration de toutes ces relations, des attentes et des mesquineries, c'est très très drôle ça aussi.
Puis bon, des passages sur le pouvoir de l'empathie, la solitude du mourant. Rappelez-vous les pactes de suicide, les monarques dans différentes civilisations qui faisaient enterrer avec eux des esclaves vivants ou la pratique indienne du sati, qui voulait que la veuve soit immolée sur le bûcher funéraire de son mari. La réunion céleste et la résurrection. Socrate et sa certitude absolue qu'il allait passer à l'éternité à converser avec d'autres grands esprits. Et cette singulière coutume paysanne pratiquée en Chine dans les canyons desséchés du plateau de Leus, où les parents d'un fils célibataire qui vient de mourir achètent une morte aux pilleurs de tombes et enterrent les deux ensemble comme un couple. On voit donc là aussi des usages, une très grande culture. Donc véritablement, en lisant Irving Yalom, La malédiction du chat hongrois ou Le jardin d'Épicure ou bien Mensonge sur le divan et Nietzsche a pleuré, alors voilà quelques-uns, eh bien on ne perd pas son temps, on a aussi l'occasion de réfléchir sur soi, sur ce que représente la vie, sur ce cadeau qu'est la vie. Et de ce fait, c'est une très bonne lecture. Bonne semaine à tous, au revoir.
Au revoir.